France Culture.
Cabaret, Céline Duchesnay, Laurent Polery. Premier épisode, au commencement était Montmartre. Cabaret, voilà un mot synonyme de paillettes, de girls et de champagne. Mais derrière la fête, sait-on que ce lieu a été l'incubateur de nombreuses révolutions sociétales. Espace transgressif, le cabaret a tout au long de son existence régulièrement remis en cause l'ordre établi, qu'il soit artistique, sociétal ou sexuel. Une histoire irrévérencieuse qui commence à Montmartre au XIXe siècle, qui nous entraîne dans le Berlin des années 20 et qui interroge depuis plus d'un siècle la nudité et le genre. Il n'est pas toujours simple de savoir ce qu'est un cabaret, car aujourd'hui, sous ce terme, on trouve des lieux et des genres de spectacles très différents. Mais malgré cette disparité, une certitude, une origine commune, Montmartre, où deux établissements, le Chat Noir, créé en 1881, et le Moulin Rouge, en 1889, vont façonner l'image que nous nous faisons des cabarets. Jean-Claude Dion, vous êtes historien, spécialiste des spectacles au XIXe siècle, et nous sommes au parc de la Turlure, en haut de Montmartre, à Paris. Est-ce que vous pourriez me décrire ce qu'on voit ?
On est dans un lieu qui était autrefois les faubourgs de Paris, avec des maisons de campagne, avec des jardins. Et ce qu'on voit précisément là où nous sommes, c'est quand même ce qui domine la butte et qui domine Paris, à savoir le Sacré-Cœur.
Est-ce que Montmartre était un lieu à part en termes de divertissement au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle?
Déjà, Montmartre a toujours été effectivement un lieu de divertissement, puisque quand c'était encore un faubourg, on venait ici chez le marchand de vin, ce qu'on appelle des guinguettes, dans des bals. Des guinguettes notamment parce qu'effectivement, comme on était en dehors de Paris, le vin était moins cher, donc on avait une habitude de venir ici pour boire, pour danser. Et puis avec l'intégration de Montmartre dans Paris, cette tradition un peu festive et de plaisir a continué, avec l'apparition à Montmartre et puis sur les contreforts, un peu en bas de la butte, de différents établissements, souvent des bals qui ont été transformés en café-concert, en music-hall, et puis bien sûr des cabarets. Et donc le côté encore assez rural, notamment du haut de la butte, où finalement, à part le Sacré-Cœur, on avait encore des terrains vagues, bien sûr les fameux moulins qui font la signature même du lieu, rendaient un peu exotique cette partie de Paris et contribuaient vraiment au fait que les Parisiens avaient envie de monter jusqu'ici et de prendre du bon temps à Montmartre.
Prendre du bon temps à la fin du XIXe siècle, en termes de spectacle, ça veut dire quoi ?
On est dans une société où les spectacles ont vraiment une importance beaucoup plus grande qu'elle peut avoir de nos jours. Donc c'est vraiment un lieu d'expression de l'opinion publique, un lieu où tout le monde va. Et quand on parle de Montmartre, à la fin du siècle, on est dans un phénomène qui est en fait la concurrence du théâtre proprement dit par de nouvelles formes de spectacles non théâtrales. Ça a commencé dès le milieu du siècle avec le café-concert, ça s'est développé énormément du côté du musical, donc des formes encore plus spectaculaires, assez influencées par les pays anglo-saxons. Et puis dans un format plus intimiste, réservé à une petite élite, le cabaret. Et c'est notamment sur ce créneau en quelque sorte du cabaret, et alors qu'on a énormément de théâtre un peu partout dans toute la capitale, de café-concert, c'est vraiment dans ces cabarets artistiques que Montmartre se singularise et devient un lieu d'attraction.
Jean-Claude Dion, ce public qui allait au spectacle, est-ce qu'on pourrait le comparer avec le public d'aujourd'hui ?
Alors, avec le public de théâtre d'aujourd'hui, certainement pas. Je pense que si des artistes du 19e siècle, par un coup de baguette magique, pouvaient jouer en 2024, ils auraient le sentiment d'avoir devant eux des morts-vivants et des spectateurs complètement figés. Parce qu'en fait, on a au 19e siècle un public beaucoup plus participatif, si je puis dire, qui intervient. C'est facilité par le fait que la lumière n'est pas éteinte dans la salle pendant le spectacle. Ça arrive précisément à la Belle Époque, petit à petit. Et d'ailleurs, dans les cabarets, on est dans un lieu avec une lumière pareille. Enfin, il n'y a pas vraiment une scène ou une petite scène, mais donc la lumière est aussi présente partout. Et donc ça, c'est déjà un élément qui change tout. Et on a donc un public et a fortiori dans les cafés-concerts, dans les cabarets où on boit en même temps, voire on mange, on a un public qui intervient, qui interpelle les spectateurs. On a vu récemment, quand on a interpellé Isabelle Huppert, ça a fait presque un scandale national, c'est d'une banalité totale au 19e siècle. Et donc, je pense que pour comprendre un peu les sociabilités, le mode de fonctionnement du public au 19e siècle, il faut imaginer plutôt ce qui se passe dans les stades de nos jours, avec un public, effectivement, qui intervient, qui est très, très actif, qui rentre, qui sort. L'intérêt, justement, du café-concert, c'est qu'effectivement, et du cabaret, c'est qu'on peut arriver un peu, c'est une sorte de spectacle continu, on peut arriver à n'importe quel moment, repartir, ressortir. Et le cabaret joue beaucoup aussi sur cette complicité entre les artistes et le public.
Qu'est-ce qu'un cabaret en cette fin du 19e siècle ?
Le mot cabaret a vraiment beaucoup de sens et c'est très compliqué. Et c'est sans doute pour ça que vous faites tout un programme autour de ce lieu assez extraordinaire. Le cabaret qui nous intéresse ici à Montmartre, sur la Butte, et dont le prototype est vraiment le Chat Noir, ouvert en 1881, c'est une sorte de dérivation du café-concert, mais avec un côté artistique, intellectuel, satirique très marqué, dans des lieux forcément très petits, et où on va présenter des formes de spectacles très variées. Alors, bien sûr, la chanson, et on pense tous à Aristide Bruand, par exemple, les petites parodies, et puis avec ce personnage illustré par Rodolphe Salis, qui est le bonimenteur, en fait, le monsieur loyal, qui organise la soirée, qui interpelle les spectateurs, puisque les spectateurs sont tout prêts. Donc, c'est vraiment un type de spectacle très particulier et qui joue aussi, lorsqu'on est ici, sur l'ambiance montmartroise et sur cette espèce d'atmosphère particulière qui est propre à la Butte.
Alors, Tacita, vous avez été inspiré pour écrire cette chanson. C'est une chanson sur le lapin Agile.
Tout à fait.
Pourquoi vous avez choisi ça ?
Bien, le lapin Agile, je suis tombée amoureuse du lapin Agile la première fois que je suis venue auditionner. Et donc, j'ai composé cette chanson pour la garder toujours en mémoire et puis faire partager tout ça au public charmant qui est là, d'ailleurs, ce soir.
Cassita.
Je l'ai trouvé par hasard en flânant sur ce trottoir près de la rue Saint-Vincent. Il avait l'air de sortir d'une histoire, d'un souvenir ou d'un conte pour enfants. Petite maison haute, infragile, s'appelle au lapin agile, c'est merveilleux de savoir que des foules d'admirateurs de Paris ou bien d'ailleurs viennent chez toi tous les soirs avec ses chanteurs.
Bonsoir.
Bonjour.
C'est une radio lapin aujourd'hui ?
Oui.
Ok. Tout se passe ici ?
Oui.
D'accord.
Le spectacle, en tout cas, la partie du spectacle avec le public, ça se passe ici, dans cette salle. Juste un piano, une petite salle de veillée, mais une cheminée là-bas dans le coin avant.
Avec une ambiance très sombre et tamisée, que ce soit les murs, on a l'impression que tout est noirci au feu de bois.
C'est vrai que les murs ont pris une couleur noire par la fumée des pipes, des cigarettes, de toutes sortes de choses. Puisque quand même, le cabaret, elle a presque 150 ans, enfin plus. C'était une maison au départ et c'est devenu un cabaret.
Frédéric Thomas, vous êtes la quatrième génération à qui appartient le cabaret Le Lapin Agile, créé dans les années 1880, en sachant que avant Le Lapin Agile, il y avait déjà un autre cabaret, le cabaret des assassins. Mais si on reste dans ces années 1880, que se passait-il au Lapin Agile ? Les gens qui venaient ici, ils voyaient quoi ?
C'était un repère à Montmartre, un lieu où se retrouvaient tous les habitants du village. Alors, il y avait aussi des ouvriers qui venaient des chemins de fer. Il y avait des paysans qui étaient autour, c'était les champs. Il y avait aussi des commerçants. Il y avait des artistes qui venaient ici aussi pour prendre un peu de recul par rapport à la vie à Paris. Il y a aussi des gens qui venaient parce que la boisson était moins chère à Montmartre qu'à Paris. Pour toutes ces raisons, beaucoup de monde venait au Moulin de la Galette, aussi au Cabaret des Assassins, pour passer du bon temps. C'était un lieu qui avait des animations, il y avait des amateurs qui chantaient aussi, un piano, ou des gens plus ou moins habiles au piano, et parfois des très bons qui passaient. Et ils faisaient la fête, quoi.
Pourquoi ça s'appelle Cabaret Artistique ?
Cabaret Artistique, c'est venu après le Chat Noir. Parce que le premier cabaret qui a vraiment instauré cette espèce de qualité de représentation artistique, c'est le Chat Noir.
Je cherche fortune autour du Chat Noir, où claire la lune à mon âme. Je cherche fortune autour du Chat Noir, où claire la lune.
Rodolphe Trouilleux, vous êtes historien de Paris et écrivain, et nous sommes en haut de la butte Montmartre, dans le jardin du musée de Montmartre. Prêtez-nous vos yeux, que voit-on ?
Ben, nous sommes dans le jardin du musée, qui réunit deux immeubles du XVIIe siècle, un qui a été remanié au XVIIIe. Donc c'est un des endroits de Paris que je préfère, parce qu'il est très, surtout à cette heure-là, il est très retiré, et on entend les oiseaux, enfin, ce qui est quand même un peu particulier à Paris. Voilà, c'est un jardin avec un bassin au milieu, sur le côté des immeubles d'habitation, et au fond, on a une vue lointaine sur le clocher du Sacré-Cœur, et plus proche, le château d'eau de la butte Montmartre.
Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on avait à peu près le même décor à la fin du XIXe siècle ?
Ah, tout à fait. Cette partie de la rue Cortot est tout à fait semblable à celle qu'elle était en 1881, quand Salis a fondé son Chat Noir.
Quelle est la différence entre un cabaret tel qu'il existe en cette fin du XIXe siècle et le Chat Noir ? Parce que le terme qu'on accole au Chat Noir, généralement, c'est cabaret artistique.
Oui, bah ça, c'est ce que voulait Salis. Jusqu'ici, un cabaret, c'était un bistrot, enfin un endroit de rencontre où on buvait, où on mangeait, où on jouait aux cartes. Enfin, c'était rien d'autre. Salis, lui, il a voulu en faire un cabaret artistique en appelant des poètes, en appelant des musiciens, en appelant des peintres, faire un lieu d'échange complet pour une sorte de spectacle total. Il a même installé un piano, ce qui au départ lui a causé des problèmes, parce que les pianos étaient interdits, bizarrement, dans les cabarets. Et lui, il a eu l'autorisation par serlation. Il savait très bien jouer de serlation. Il va obtenir l'autorisation d'avoir un piano. Et alors là, on pourra assister à des gens de concert avec des amis poètes qui viennent et des chanteurs et autres.
Pourquoi le Chat Noir ?
Alors le Chat Noir, on a dit beaucoup de choses là-dessus. On a dit quand il faisait les travaux, un Chat Noir était passé dans le... Puis j'en passe, c'est des meilleurs, mais on a la version de Salis lui-même. Il se trouve que Salis peignait, donc, pas très bien, mais il peignait, et il a fait des tableaux à la demande. On a la trace d'un tableau qu'il a fait avec une femme nue et des petits cochons. Bon, bref, il paraît qu'il avait réussi à vendre ça. C'est une commande, paraît-il. Il avait aussi fait un tableau à partir de la nouvelle d'Edgar Poe, Le Chat Noir. Et cette nouvelle l'aurait particulièrement marqué. Ce travail l'aurait particulièrement marqué. On a perdu l'œuvre de Salis, on la retrouvera peut-être un jour.
Donc Le Chat Noir est créé en 1881 au 84 boulevard de Rochechouart. C'est un espace très restreint, c'est 12 mètres carrés.
Oui, c'est quelque chose comme ça. C'était un ancien bureau des télégraphes avec un espèce d'espace un peu ridicule derrière que Salis nommera l'Institut. Il fait aménager tout ça. Il fait faire des vitraux pour aménager, pour la façade. Il ne fait pas n'importe quoi quand même. Comme c'est un collectionneur d'antiquités depuis le début, chez lui au 4e, c'est un véritable magasin de brocante, il descend des choses et déjà il y a des vieux casques, il y a des assiettes, il y a des tas de trucs. Et là, un artiste fait une cheminée absolument démentielle avec des chats dessus. Déjà un décor totalement farfelu avec un chat dans le vitrail, quelque chose qui veut jouer un peu son faux Moyen-Âge, enfin... Un mobilier aussi qu'il gardera après, très inconfortable, parce que je l'ai essayé, c'est le Chat Noir. C'est un petit endroit, le plus souvent ouvert, donnant sur le boulevard Rochechouart, un lieu d'ailleurs assez interlope, parce qu'il y a déjà des histoires de drogue, des histoires d'apache. D'ailleurs, il va en avoir une assez importante. Et puis voilà, c'est un endroit vivant, très artiste, comme on disait à l'époque.
Il s'est créé tout près de l'Élysée-Montmartre un cabaret qui est en train de devenir célèbre et dont la clientèle augmente chaque jour. C'est là une des bonnes affaires de ce temps-ci et par-dessus le marché un endroit de la capitale curieuse à visiter. Bientôt il figurera sur les guides Conti ou Johann et pas un Anglais ne voudra s'en retourner sans avoir bu un bock au chat noir puisqu'il faut l'appeler par son nom. Ce ramponneau moderne n'est pas un débit vulgaire où l'on vend le litre à 15 centimes sur un comptoir d'étain. Rodolphe Salis, le fondateur, fut quelque peu journaliste, poète et même peintre, et il n'est pas un littérateur appartenant à la presse militante qui ne le connaisse. Aussi, le cabaret qu'il a fondé ne pouvait-il ressembler à tous les autres ? Et en effet, on ne peut concevoir rien de plus pittoresque. Rien n'est banal dans la maison, ni les maîtres, ni les choses. L'accueil est à l'avenant. Rodolphe Salis n'a pas de serviette sous le bras, mais bien le sourire sur les lèvres. Et volontiers, il dirait à tous ceux qui entrent « Comment vas-tu, ma petite vieille ?» Journal La Presse, octobre 1882.
Mais Salis avait un rôle important dans le cabaret aussi en tant que personnage, bonimenteur. Il habitait son lieu.
Salis, quand on va au chat noir, on va chez Salis. Salis, c'est le chat noir. Le chat noir sans Salis, c'est pas le chat noir. Salis a créé, c'est un créateur, c'est un type, c'est un commerçant. Il n'y a rien à faire, il a hérité ça de son père. C'est un type assez haut en couleur, haut en verbe aussi. Il n'est pas toujours très facile. C'est un type assez grand, avec un torse assez développé, roux, des yeux clairs. Donc il avait une barbe aussi, pointue, ce qui lui donnait une allure assez, assez curieuse. Et tout ça, ça donne un personnage dans son chat noir. Il y a des amis qui le rejoignent, Villette par exemple, Villette va dessiner la fameuse enseigne du chat noir, qui est maintenant au musée Carnavalet, et qui figure un chat en colère, on va dire, sur une lune qui ne l'est pas moins. C'est quelque chose d'assez amusant. À un moment donné, le chat noir va s'agrandir, avec la boutique de l'horloger à côté, de façon totalement farfelue, parce que l'horloger ne voulait pas s'en aller de sa boutique, qui était toute petite, mais Salis, ça l'intéressait. Donc il va faire la vie à l'horloger, il va commander 50 pots de chambre qu'il va faire livrer, et une nuit, ils vont couvrir la boutique de l'horloger avec du papier, jusqu'à faire une épaisseur de carton. L'horloger, le lendemain, n'a pas pu rentrer chez lui. Il a été obligé de céder la place. À partir de ce moment-là, il va agrandir. Ça n'arrête pas, quand on regarde bien, et quand on voit l'aventure du chat noir qui n'a duré quelque part que 16 ans, on est quand même assez saisi de voir quand on imagine 16 ans. Et on dit maintenant, 16 ans, on imagine 16 ans en arrière. C'est assez étonnant, quoi. C'est vraiment une aventure, c'est une véritable épopée même.
Avec des événements aussi, je pense par exemple lorsqu'il a organisé sa propre mort ou lorsqu'il a organisé des défilés aussi dans Montmartre.
Oui, alors la propre mort, c'est tout un truc, ça. C'est à propos du journal. Quand il a publié son journal, je crois qu'on en verra un dans le musée. Il a fait un encadré de deuil et il a organisé son propre enterrement. Donc avec des convocations, les gens sont venus et la personne de la famille qui recevait les gens à l'entrée, c'était Salis lui-même. Les gens parfois trouvaient qu'il était un peu ressemblant avec le défunt, enfin voilà. Et à l'intérieur, il y avait une boîte de contrebasse couverte d'un drap noir avec des larmes, une couronne de pin pour figurer la couronne mortuaire. Des gens sont venus, à un moment donné, Salis a dit ce qu'il en était, ça a été la fête. C'était tout le temps comme ça, il faut voir, c'est que ça pouvait partir en vrille. C'est des gens qui comment dire, pour parler poliment, déconnaient sérieusement. C'est-à-dire qu'ils mettaient beaucoup d'attention à organiser des choses absolument incroyables. C'est tout le chat noir, c'est toute l'ambiance qu'on peut imaginer, dont on a encore les échos par différentes choses et différents vestiges comme on pourra voir dans le musée.
La première fois peut-être que l'humour montmartrois parti à la conquête de la rue ce fut à l'occasion du déménagement du Chat Noir, installé depuis quelques années, boulevard Rochechouart. Ce déménagement fut épique. Les gens du quartier en parlèrent longtemps. Deux Suisses énormes et empanachés ouvraient la marche, tandis qu'une extraordinaire fanfare d'amateurs faisait rage, assourdissante et triomphale. Salis s'avançait gravement. Il avait revêtu un costume de préfet. Deux chasseurs le suivaient, portant la bannière du Chat Noir, sur laquelle brillaient les armes du cabaret. D'or au chat de sable, passant armé l'an passé de gueule, avec cette devise « Montjoie Montmartre ». Le parcé dominé de Villette était porté par quatre académiciens et une charrette à bras contenait entassés pêle-mêle les objets les plus inattendus. Ce cortège éclairé par des torches déambula longtemps le long du boulevard et puis entra au nouveau logis du Chat Noir où il devait connaître tant de gloire et avoir une telle influence sur les lettres et les arts d'aujourd'hui. Journal Comédia, septembre 1910.
Rodolphe Trouilleux, en 1885, le Chat Noir déménage. On passe donc du boulevard Rochechouart aux 12 rues de Laval. Aujourd'hui, c'est la rue Victor Massé. Pourquoi ce déménagement ?
Il avait envie de s'agrandir, tout simplement. Il doit en avoir les moyens, mais ça, on ne sait pas lesquels. En tout cas, il va louer cet hôtel particulier qui était occupé par le peintre Stevens. Il va faire des travaux dedans, il va aménager des salles, des fausses cheminées avec des chats partout, la salle François Villon en bas, avec un prolongement avec une verrière. Il va commencer à s'agrandir comme ça. Après viendra le temps où il va aller à l'étage supérieur, la dernière salle, qui va servir de salle de spectacle, de réunion, différentes choses, et qui servira de salle pour les ombres. Mais ça sera encore un autre aménagement.
Entrons dans le musée de Montmartre pour aller voir les salles consacrées au Chat Noir. Très vite, ce deuxième Chat Noir va devenir célèbre pour son théâtre d'ombre, Rodolphe Trouilleux. On rentre vraiment dans une dimension très spectaculaire. On est là assez éloigné du premier Chat Noir, espace très resserré, sans scène. Les proportions sont beaucoup plus grandes.
Alors, beaucoup plus grandes, oui et non. J'ai été dans la salle du haut, qui est maintenant transformée en appartement. Et quand on est dans cette salle, on constate que la salle n'est pas si immense que ça. Par contre, il y avait eu des aménagements qui avaient été faits derrière. On avait cassé la fenêtre et on avait fait un aménagement en porte-à-faux, enfin quelque chose d'assez incroyable, et qu'un architecte avait fait. Et là, on avait tout le système qui servait à faire le théâtre d'ombre, qui était un système absolument complexe, avec des corps glissants sur des rails, des plaques de photos, des plaques de couleurs pour donner des ambiances, de la fumée, du bruitage, de la musique, il y avait un piano derrière, tambour, tout ce qu'on voulait, tout ça pour donner une ambiance de... On a souvent dit que c'était l'ancêtre du cinématographe, moi je dirais plutôt que c'est plutôt l'ancêtre du dessin animé, quelque part. D'ailleurs, Émile Coll est proche du Chat Noir, et lui va vraiment être un des créateurs, des tout premiers créateurs du dessin animé. Donc on est vraiment dans un système... Il y avait à peu près 15 personnes derrière, pour l'écran, pour animer tout ça. Et il fallait que ça fonctionne... au poil, et c'était Henri Rivière qui a mis au point tout ça avec différentes personnes. C'était tout un travail. Donc au début, ça a commencé en 85, assez vite, puisque le premier Chat Noir de 81, on s'aperçoit quand même que ça évolue très vite. Et ils vont avoir un premier aménagement, un premier écran. Ils vont commencer à avoir un certain succès, parce que dans tout Paris, quand même, ce spectacle d'ombre était absolument exceptionnel. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au XVIIIe siècle, il y avait le Séraphin au Palais Royal, qui donnait déjà des spectacles d'ombre. Et ce qu'il faut, le Séraphin avait fermé vers 1800, un peu après, à 1870. Donc il y avait des enfants qui avaient grandi, qui avaient assisté au spectacle d'ombre chez Séraphin, qui était très célèbre, et ils ont retrouvé quelque part une version, on va dire, modernisée, améliorée, beaucoup plus technique du spectacle d'ombre, qui était absolument incroyable. C'était vraiment, pour les gens, un spectacle total. Avec Salice qui commentait devant l'écran, qui bonimentait, comme on disait, et qui parfois adaptait le texte du spectacle à l'actualité.
Est-ce que le côté subversif du Chat Noir n'est pas lié aussi aux artistes qui étaient représentés ? On a évoqué les utistes, les fumistes, les hydropathes. Est-ce que dans la philosophie de ces artistes, il n'y avait pas quelque chose qui allait contre l'art dominant, l'art officiel ?
Oui, complètement. Et on peut dire que le... Enfin, pas pour tout, hein. Peut-être pas pour les utistes, mais de tous ces mouvements istes avaient effectivement un fond de quelque part d'anarchie, de refus de l'ordre établi dans le milieu artistique pour pouvoir créer, pour aller plus loin.
Donc, ce refus, ça pouvait donner quel type de forme artistique ?
Quelque chose que moi je connais assez bien, c'est le mouvement des incohérents, qui est, on va dire, qui est né au Chat Noir. Jules Lévy était proche du Chat Noir. Il a créé en 82, il a créé un premier salon des incohérents où il demandait que les artistes ne savent pas dessiner. Donc ça, c'est une blague à la sortie. Parce que quand on regarde ce qui a été présenté, effectivement, on a vu des choses absolument invraisemblables. Un pied en gruyère, une installation, par exemple, Paris, résumé en un tas de pavés avec trois grilles d'égout et une pelle. C'était Paris. Les incohérences, c'est encore un autre sujet, mais c'était, si vous voulez, on a créé, c'est vraiment, l'incohérence, c'est vraiment la création de l'avant-garde qui sera reprise après par Duchamp et compagnie. On a vraiment une expression, on peut percevoir un peu le sentiment qu'il y avait du Chat Noir, de cette espèce de subversion, cette blague.
Rodolphe Trouilleux, nous avons sur un des murs de cette salle des extraits du journal Le Chat Noir. Donc, quelle fonction avait ce journal dans le cabaret ?
Au départ, on peut penser que Salice l'a fait comme une espèce de prospectus, mais pas vraiment. Au départ, dès le premier numéro, c'est un journal. Un journal de 4 pages qui va connaître un succès absolument incroyable qui va durer la plupart du temps du cabaret. C'est un des grands succès du Chat Noir. On prétend que certains numéros ont été vendus jusqu'à 20 000 exemplaires. C'est absolument incroyable. Pourquoi un journal ? Parce qu'il y avait eu la loi de 1881 sur la presse qui libérait certaines choses dans la presse. Et la collection du Chat Noir est absolument, c'est un véritable monument à la fois historique et littéraire. Il paraissait tous les samedis, avec un dessin à la troisième page qui reprenait le modèle d'un autre journal qui avait eu énormément de succès, qui avait encore du succès à l'époque, qui s'appelait le Charivari, et où Daumier d'ailleurs a publié énormément de lithographies et d'autres artistes. Pendant plusieurs années, le rédacteur en chef était Alphonse Allais.
Oui, parce que le Chat Noir était aussi un journal littéraire.
Alors, c'était un journal très littéraire. On a des textes de Verlaine dedans, quand même, de Charles Cros, de différentes personnes qui sont venues plus ou moins de façon longue au Chat. Vous avez Maurice Rollina, qui a publié des textes macabres. Vous avez aussi Léon Blois, qui va venir au Chat Noir jeune. Ça va bien se passer entre lui et Salice, ce qui paraît... très très curieux quand on connaît le caractère des deux personnages. Léon Blois était plus jeune à l'époque, mais au bout d'un moment, ça va y avoir une rupture totale et Léon Blois va envoyer Salice paître. Il y a eu énormément de passages de différentes personnes. Salice a publié lui-même ses contes, qui étaient plus ou moins écrits par Georges Auriol dans le Chat Noir. Et il publiait aussi de la publicité qui lui permettait de faire vivre le cabaret.
Donc on peut dire que le Chat Noir était un journal littéraire, artistique et avec une dimension humoristique très importante. L'humour noir est aussi caractéristique de ce journal.
L'humour noir, le côté macabre, très présent, et aussi un énorme laboratoire pour le dessin, on le voit ici, parce que là, ce sont des pages du Chat Noir, les fameuses, la troisième page du Chat Noir, et c'était même un laboratoire aussi d'études, on va dire, pour la bande dessinée, qui connaîtra le succès qu'on connaît bien après.
Dans cette salle qui est consacrée aux autres cabarets, on a donc des affiches autour de nous. Il y a une affiche du Divan japonais, une affiche de l'Élysée-Montmartre, une affiche aussi du Moulin Rouge. Sous ce terme de cabaret, on peut trouver différents types de salles.
Oui, parce que bon, là, c'est un peu autre chose, c'est un peu une évolution. C'est-à-dire que le Moulin Rouge, l'Élysée-Montmartre, Divan, c'était un endroit où on dansait. Il y avait des salles de bal. Il y avait aussi une salle de spectacle où on pouvait voir, par exemple, la Goulue avec différentes danseuses et d'autres choses qui se passaient au Moulin Rouge. Donc, il y a un spectacle qui a été donné aussi. Donc, c'était des lieux comme ça, beaucoup plus grands pour recevoir énormément de personnes. L'ambiance était différente parce qu'on... On assistait au spectacle, on venait danser, on venait faire les deux. Enfin, c'était tout à fait autre chose.
Mais avec peut-être en commun cet esprit de la fête et du divertissement.
De la fête, du divertissement qui était imprimé à Montmartre. Et Salice avait contribué à donner cette ambiance, cette étiquette de Montmartre, des plaisirs, Montmartre, de la joie, de la danse. C'était tout à fait caractéristique.
Annabelle Point-Cheval, vous êtes inspectrice de la création artistique au ministère de la Culture. Pourquoi est-il si difficile de définir le cabaret ?
Une double raison. Tout d'abord, une raison historique. Et si on reparcourt l'histoire du cabaret, alors depuis le premier cabaret, clairement, c'est le Chat Noir. Hein. Ça ne fait de doute nulle part et pour personne, je crois. Et puis petit à petit, ça a un petit peu évolué, changé, notamment avec l'arrivée des Américains dans les années 20, qui sont arrivés avec leur vocable aussi, de music hall. Mais finalement, c'est un petit peu la même... Ça tient de la même veine et de la même idée, c'est-à-dire une soirée où on peut boire et manger, au cours de laquelle on peut assister à différents numéros qui se succèdent sans nécessairement avoir de lien entre eux. Pour moi, ce serait la définition, le plus petit dénominateur commun, on va dire, du cabaret.
Est-ce qu'une des difficultés, ce ne serait pas aussi que ces lieux ont souvent changé d'appellation ? Un lieu a pu s'appeler cabaret, puis théâtre de variété, puis bal.
Oui, bien sûr. Oui. Ben après, voilà, c'est pas une marque déposée, donc effectivement, on y met un petit peu ce qu'on veut derrière. Et aujourd'hui, et je pense depuis plus particulièrement les années 2010, le terme de cabaret revient en force, y compris pour ce qu'on a pu appeler longtemps le music hall, comme le Moulin Rouge par exemple, mais qui effectivement reste un cabaret.
Donc aujourd'hui, sous ce terme de cabaret, qu'est-ce qu'on peut trouver ?
Des lieux de toutes sortes, à savoir des lieux très équipés, avec des équipements scéniques très importants, à la pointe bien souvent, jusqu'à des tout petits lieux dans lesquels il est difficile de faire du son, difficile de faire de la lumière éventuellement, des lieux qui servent parfois autre chose aussi à d'autres moments. Le spectre est quand même très 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 large. Donc ça, c'est en termes de lieux. Après, en termes de représentation et d'esthétique aussi, et c'est là où je trouve que c'est absolument passionnant, c'est on trouve tout ce que le spectacle vivant peut abriter, et même au-delà du spectacle vivant d'ailleurs, depuis des numéros de fakir jusqu'à de la danse très très pointue comme l'est le cancan, hein, c'est une danse extrêmement technique, de la poésie jusqu'à des chansons bien sûr qui peuvent être soit répétées, préparées, etc., soit plus improvisées et donc aussi plus en lien avec l'actualité. On a cette dimension-là aussi au cabaret, c'est-à-dire qu'il y a quand même, et quel que soit l'endroit, il y a quand même un vrai lien avec l'actualité et avec le contexte.
En haut de la rue Saint-Vincent, un poète et une inconnue s'aimèrent l'espace d'un instant, mais il ne l'a jamais revue. Cette chanson il composa, espérant que son inconnue un matin de printemps l'entendra quelque part au coin d'une rue. La lune, trop blême, pose un diadème sur tes cheveux roux. La lune, trop rousse, de gloire éclabousse ton jupon plein de trous. La lune trop pâle caresse l'opale de tes yeux blasés. Princesse de la rue, sois la bienvenue dans mon cœur blessé. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Petite mendigote, je sens ta menotte qui cherche ma main. Je sens ta poitrine et ta taille fine, j'oublie mon chagrin. Je sens sur tes lèvres une odeur de fièvre, de gosse mal nourri. Et sous ta caresse, je sens une ivresse qui m'anéantit. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Mais voilà qu'il flotte, la lune se trotte, la princesse aussi. Sous le ciel sans lune, je pleure à la brume. Mon rêve évanoui.
Cabaret, LSD, la série documentaire, Céline Duchesnay, Laurent Polleret.
Là, nous sommes au pied du Moulin Rouge et nous allons rentrer à l'intérieur.
À l'intérieur du moulin même.
À l'intérieur du moulin même, qu'on voit de l'extérieur sur la façade, oui.
Alors allons-y.
Donc bonjour, bienvenue à l'intérieur du Moulin Rouge. Je me présente Virginie Cléricot. Je suis une des représentantes de la famille qui possède le Moulin Rouge. Donc c'est une entreprise familiale et je suis donc la quatrième génération au sein de cette entreprise du spectaculaire, un peu emblème de la fête parisienne qui a bientôt 135 ans. Et à ce titre, je suis en charge avec différentes équipes de garantir le respect de son image et de son développement en dehors des murs, notamment.
Virginie Cléricot, le Moulin Rouge a ouvert ses portes en 1889. Est-ce que le moulin dans lequel nous sommes existait déjà ? Est-ce qu'il était déjà là ?
Alors le moulin dans lequel nous sommes exactement n'existait pas, mais il y avait déjà un moulin, oui tout à fait. Pourquoi un moulin ? Parce qu'à l'époque, Montmartre était un peu une petite campagne et il y avait beaucoup de moulins à farine. Donc les entrepreneurs qui ont ouvert le lieu ont créé cette enseigne, un moulin qui faisait donc clin d'œil à ces moulins à farine, qui n'a jamais eu une utilité de moulin à farine, qui était peint de couleur rouge pour le côté festif et qui du coup attirait un peu l'œil. Et ça a été aussi un des premiers bâtiments électrifiés de Paris, dans l'intention de le voir de loin, puisqu'on est vraiment au pied de la butte de Montmartre.
Électrifié, c'est-à-dire que vraiment, comme il était en hauteur, c'était une manière de vraiment montrer que le Moulin Rouge était là. Parce qu'à l'époque, l'électricité n'était vraiment pas du tout dans tout Paris.
Tout à fait. C'était effectivement pour bien le signaler. Donc c'était vraiment pour travailler la communication, l'enseigne du lieu. Ça attirait pas mal de curieux, ne serait-ce que pour voir la façade extérieure.
Alors le 6 octobre 1889, c'est l'inauguration du Moulin Rouge par Joseph Holler et Charles Zidler, qui sont deux hommes d'affaires. Est-ce que dans vos archives, vous auriez des documents qui parlent de l'ouverture du Moulin Rouge ?
Tout à fait, on a des documents qui parlent donc de l'ouverture, on a des documents qui nous ont été légués parfois par la famille des fondateurs, donc du coup on a pas mal d'historiques. Il faut savoir qu'on avait d'un côté Holler qui avait vraiment une connaissance de l'industrie du divertissement, qui avait lui-même déjà créé des salles de concert, des parcs d'attractions, enfin, il avait ce côté très entrepreneurial spectacle, et Zidler de la même manière, mais lui plutôt sur un prisme plutôt artistique, donc il est devenu directeur artistique du Moulin Rouge quand ça a ouvert, plutôt la partie programmation, donc les deux se complétaient assez bien avec leurs sensibilités respectives autour du divertissement.
On irait voir vos archives ?
Tout à fait. là, on va redescendre de la terrasse sur laquelle se trouve le Moulin Rouge. On va rejoindre le Salon Lautrec qui se trouve dans le hall d'accueil du Moulin Rouge où les clients arrivent le soir pour assister au spectacle et peut-être dîner un peu avant.
Alors cette fameuse première journée d'octobre 1889, que pouvaient faire les Parisiens qui voulaient aller au Moulin Rouge? Est-ce que vous avez le détail?
Alors ils pouvaient du coup accéder au jardin, se promener, déambuler, assister au spectacle le soir. Comme je vous le disais, c'est vraiment un lieu qui était à la fois diurne et nocturne. Donc ça brassait un public assez large, la journée plutôt familiale. Les gens venaient se divertir, prendre une collation, il y avait comme des petites buvettes, on va dire, des petits kiosques. Et puis le soir, place au spectacle avec voilà, la tenue qui s'y prête, des couples, toute typologie de population qui venait assister au spectacle.
Et nous avons devant nous, qu'est-ce que c'est? Ce sont des programmes. Est-ce que vous pourriez nous décrire ce qu'on voit?
Alors on a quelques pièces, on a des fascicules de présentation, quelques affiches. Il faut savoir que on a entrepris il y a une vingtaine d'années la recréation de tout ce patrimoine d'archives. C'était pas quelque chose qu'on avait pour habitude de faire. Personne n'avait vraiment l'habitude de le faire. Et nous, c'est vrai que depuis une vingtaine d'années, on a entrepris ce travail de recollecter un peu ce patrimoine privé pour nous aider à reconstruire un petit peu l'histoire, nous découvrir pourquoi pas des facettes du moulin selon les périodes. Et donc aujourd'hui, on peut dire qu'on a des archives qui sont plutôt du registre du papier, donc des affiches, des programmes, des cartes de visite, des papiers plus administratif aussi. Là, vous avez aussi le journal intime de la Goulue, donc vraiment des choses qui peuvent être très très personnelles. Et ensuite, on a aussi des objets, quelques petits objets qu'on a pu retrouver. Alors, on a, mais du coup, c'est plus récent, des costumes. Souvent, on nous demande si on a le costume de la Goulue. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, les costumes, c'était votre plus belle chemise du dimanche. Donc, il n'y a pas de conservation vraiment de ces costumes. On a pourtant recréé ces costumes pour le spectacle. On les a refait vivre. Mais il n'y a pas de traces de costumes de la Goulue. Vraiment, c'est plutôt après, quand on a commencé à avoir des revues vraiment inspirées des revues de musicals de Mistinguett, où là on a pu conserver certaines choses, on a aussi certains objets qui ont appartenu à Mistinguett, mais c'est vraiment après qu'on a pu le conserver. On a aussi quelques éléments de décor. Il faut savoir que le bâtiment donc a été reconstruit en 24 après un incendie qui a eu lieu en 1915 suite à des travaux. Et donc c'est vrai que encore aujourd'hui, de temps en temps, on découvre derrière un mur un papier peint qui évoque cette époque-là. Le lieu a vraiment continuer à bouger, mais il y a certaines choses qui sont toujours là, donc c'est assez émouvant quand on en retrouve. C'est vrai qu'il fut un temps où je pense que le foncier n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, et donc du coup on retrouve parfois entre deux murs des reliquats de gravats qui ont été laissés là parce qu'en fait on décidait de changer un peu le format de la pièce pour faire simple, et puis en fait on laissait ça dans un coin, on recloisonnait, et puis voilà. Donc de temps en temps, c'est avec surprise qu'on retrouve peut-être des tableaux, des choses qui ont été oubliées, deux trois anecdotes, un journal, donc c'est vrai que c'est assez amusant.
Le Moulin Rouge est évidemment aussi associé à la danse du cancan. Qu'est-ce qu'on a au niveau des archives qui concernent cette danse? On a là déjà sous les yeux le journal de la Goulue. Ce sont des très grandes feuilles.
Oui, alors c'est des très grandes feuilles, un format A4 aujourd'hui. Il y a des scotchs, c'est un peu déchiré, et c'est une écriture plutôt un peu italique. C'est assez amusant. On a du mal à voir les capitales. On a l'impression que c'est écrit de manière complètement libre, sans jamais s'arrêter en fait. Donc elle raconte, elle débobine pas mal de choses. Donc c'est assez amusant. On ne sait pas trop par où commencer. On retrouve aussi ce qui relève de l'accident graphique, une tache d'encre. À un moment donné, elle a dû se tromper, donc elle a barré. Vous voyez l'encre qui a coulé. Donc on peut tous imaginer en fait, est-ce que c'était une goutte de pluie, est-ce que c'était quelque chose qui est tombé sur la feuille, un liquide, on ne sait pas vraiment en fait. On pourrait l'étudier, on pourrait le chercher, des petites traces de gras. C'est vraiment un journal de vie, quoi. Donc c'est assez rigolo.
Alors s'il y a eu différentes modes, différents usages au Moulin Rouge, je crois qu'il y a quand même une chose qui n'a jamais cessé d'exister, c'est donc le French Cancan. Le bal a arrêté, je crois, en 1902, mais le spectacle de Cancan, lui, n'a jamais cessé d'exister. On pourrait peut-être aller dans la salle,
oui,
où on peut
sûr.
Voir maintenant le French Cancan encore aujourd'hui.
Oui.
Le spectacle s'appelle Féerie, il y a un certain nombre de tableaux. Aujourd'hui, le spectacle du Moulin Rouge, c'est 4 tableaux. Le French Cancan est dans un dernier tableau. Ça représente 7 minutes du spectacle qui dure lui-même 1h40. Et pendant ces 1h40, c'est 60 artistes qui évoluent sur scène avec des costumes assez foisonnants, faits de plumes, strass, paillettes. Et le French Cancan est dans une partie d'un tableau qui est plus historique, un peu plus rétrospective, et qui donc fait le clin d'œil au French Cancan des origines.
Est-ce que c'est la même danse que celle qui était dansée au tout début du Moulin Rouge ?
Alors oui, alors comme toute danse, il y a des pas de danse qui préexistent. Après, on ne reprend pas nécessairement tous les pas de danse qui existent dans le French Cancan, on en reprend certains. Et il y a aussi des interprétations un peu libres d'enchaînement des artistes, toujours dans le code du French Cancan. Mais il n'y a pas de chorégraphie établie qui serait la même depuis 135 ans. Et la musique est aussi adaptée, donc c'est toujours inspiré de la musique d'Offenbach, mais c'est pas la musique d'origine. Donc on l'a aussi réenregistrée, un peu réadaptée, rendue un peu plus contemporaine.
Nadège Maruta, vous êtes chorégraphe, ancienne soliste de Cancan du Moulin Rouge et historienne du Cancan. Cette danse, le Cancan, est associée au Moulin Rouge et à la Goulue, et pourtant, il n'a pas été créé au Moulin Rouge.
Effectivement, le Cancan est apparu en 1825 lorsque les maîtres à danser ont proposé aux danseurs de quadrille une improvisation strictement réservée aux hommes et qu'ils ont pris soin d'appeler le cavalier seul. Pourquoi ? Parce que cette séquence est strictement réservée aux hommes. Et que vont faire ces hommes assoiffés de liberté ? Que vont faire ces hommes pendant le carnaval assoiffés de liberté ? Ils vont créer des surprises. Fini les rondes, fini les mouvements géométriques, ils vont traverser la salle à plat ventre, ils vont lever les jambes, ils vont pousser des hurlements, ils vont se lâcher et surtout s'amuser. Et pendant ce temps-là, les femmes se doivent de rester immobiles. Mais ça ne va pas durer. Donc cette partie, lorsque ce sont les hommes qui chahutent, on appelle ça le chahut. Et lorsque les femmes vont réagir, vont elles aussi s'octroyer ce privilège masculin, on va l'appeler le cancan.
Donc le cancan est né de cette minute de liberté, d'improvisation. Et quand est-ce que les femmes ont décidé, elles aussi, de s'octroyer cette liberté ?
On situe cette prise de liberté vers les années 1829. Tout du moins, on remarque que le premier procès pour danse indécente, date de 1829, pour Marie Sauve, qui s'est amusée tout simplement à singer la Pompadour. Donc vous voyez, elle n'a pas levé les jambes, mais simplement, elle a osé inventer un pas.
C'est ça, parce que c'est une danse qui va être très très vite interdite pour indécence.
Sous la monarchie de Juillet, en 1831, le cancan est interdit par l'article 330 du Code pénal, qui considère le cancan comme un délit.
Mais pour quelle raison ?
Pour indécence.
Parce qu'on voit les jambes des femmes ?
Justement, non. À ce moment-là, en 1831, il n'est pas question de montrer ses jambes. C'est simplement parce que les femmes s'octroient un privilège masculin. On a peur, puisqu'elles s'octroient ce privilège masculin si petit, si infime, qui est d'une minute de danse, on se dit, elles vont s'octroyer d'autres privilèges masculins. Donc ça, c'est très dérangeant. Et puis, elles inventent quelque chose. Et ça, on ne veut pas que les femmes inventent quoi que ce soit. Et on ne veut surtout pas que les femmes répondent aux hommes. Elles doivent se taire, elles doivent obéir. Et ça, c'est ça qui dérange.
Et on peut peut-être aussi rappeler que dans la danse, une femme ne danse pas seule à l'époque.
Oui, bien sûr, c'est ça, parce que la femme danse seule à ce moment-là, sans être guidée par un homme, et se permet d'accomplir des prouesses physiques.
Quel type de prouesses, par exemple ?
Sauter, elles vont courir, lever les bras, faire des glissades. Voilà ce qu'elles vont faire. Donc la chasse contre les danseuses est lancée, et nombreuses danseuses vont être condamnées, arrêtées. Elles vont parfois aller en prison ou avoir des amendes à payer.
Mais alors, quand le Moulin Rouge ouvre en 1889, le cancan n'est plus interdit ?
Si, le cancan est toujours interdit. Aujourd'hui, il est dénaturé, mais que je veux dire, ce qui se passe en 1857, une danseuse rigole Bosch, c'est elle qui invente le lever de jambes, ce qu'on appelle la série. Donc là, c'est le monde à l'envers. Les femmes ne sont plus des femmes troncs. Elles vont exister par leurs jambes, elles vont se libérer. Et ça, ça crée vraiment ça devient quelque chose tout à fait spectaculaire. Et les danseuses deviennent professionnelles à ce moment-là. Mais pour autant, le cancan est interdit. Mais pourquoi, bien qu'il soit interdit, bien que tous les bals soient surveillés, pourquoi il continue ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, il est prélevé sur la recette des bals une taxe qui est très importante pour l'État, puisqu'elle sert à donner des moyens aux hospices.
Alors à partir de quel moment la danse va-t-elle devenir un spectacle ?
Dès 1830, ça devient un spectacle, c'est une rupture, puisqu'on ne va plus venir seulement pour danser, mais aussi pour voir danser. Quand le cancan fait éruption dans un bal, à ce compte-là, c'est le règne de l'anarchie, ça devient un spectacle. Et c'est justement ce qu'on déteste. Et puis, pour revenir à la question de qu'est-ce qui gêne, pourquoi le cancan est interdit, parce que les femmes, en s'octroyant ce droit, elles bouleversent le code social, la hiérarchie sociale.
Alors si la danse est interdite, comment ça se passe au Moulin Rouge ? Elle est présentée sous un autre nom, sous le nom de Kadri, par exemple ?
Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, au Moulin Rouge, imaginez, il y a une piste de danse, il y a un peu partout et par dans la salle différents Kadri. Les danseuses vont soit déjà sur place et elles vont, au moment de la musique, elles vont repousser les clients, les curieux et se mettre à danser. Donc pour repousser, elles vont créer une ambiance comme ça d'urgence, de panique. Elles vont créer des cercles, elles vont se créer un espace pour pouvoir danser. Et au fur et à mesure, cet état d'esprit va se développer et va se déployer en plusieurs pas qui vont s'opposer à l'armée, l'église et la pudibonderie de l'époque.
Laure Bontaz, vous êtes danseuse, meneuse de revue, artiste de musical et vous avez créé un one-woman show nommé Laurette de Paname où vous dansez le cancan. Est-ce que vous pourriez nous décrire des figures de cancan ?
Oui, alors bien sûr, le cancan, donc c'est des pas qui sont très codifiés et bourrés de sous-entendus. Il y a par exemple la série de battements de jambes, des petits battements de jambes que l'on projette, nos jambes, face à nous, comme ceci. Et cette figure se moque de tout ce qui est armée, militaire, un peu le rythme et les pas cadencés des défilés militaires. Il y a aussi la figure qu'a inventée la Goulue, d'ailleurs, qui est le fameux coup de cul. Donc on se retourne, on lève son jupon, on lève ses dentelles pour faire apparaître ses fesses. Alors cette figure, c'est une façon irrévérencieuse de saluer, pour se moquer un peu du fait que, en règle générale, les femmes doivent toujours faire une petite révérence, être jolies, se taire. Voilà, là c'est carrément le coup de cul et c'est le vrai nom, la vraie signification. Et puis il y a aussi la figure de la mayonnaise, qui est ceci. C'est le fait de tourner son bas de jambe. Et alors, cette figure signifie la mixité sociale. Voilà, c'est le mélange des classes sociales, puisque l'aristocratie, la bourgeoisie et les gens du peuple venaient ensemble s'encanailler dans les mêmes lieux de fête.
Annabelle Poincheval, que doit-on aujourd'hui au Chat Noir et au Moulin Rouge ? Pour rappel, donc, si le Moulin Rouge existe toujours, on peut dire que le Chat Noir, lui, s'est arrêté avec la mort de Rodolphe Salis en 1897.
En effet, mais avant même la mort de Salis, il y a eu à Montmartre d'autres cabarets. du même type que celui du Chat Noir, et je pense notamment au Mirliton qui a été ouvert par Bruant dans les mêmes locaux que le premier Chat Noir. Enfin voilà, tout ça se tient. Et donc l'histoire du cabaret tel que on connaît le cabaret indisciplinaire aujourd'hui vient vraiment pour le coup du Chat Noir, me semble-t-il. Après je n'y étais pas, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose de la spontanéité, de l'irrévérence, de la présentation de différents genres artistiques, que ce soit le théâtre d'ombre, que ce soit évidemment la pantomime, que ce soit tout ce qui peut avoir trait au théâtre, etc. Et puis, concernant le Moulin Rouge, ce qu'on doit au Moulin Rouge à ses débuts, c'est plutôt aussi cette idée de pluridisciplinarité, qui existe peut-être un petit peu moins aujourd'hui sur la scène du Moulin Rouge, mais quand même. Et surtout, l'émancipation, l'irrévérence et la liberté.
Et donc, vous pensez que tout ce qu'on peut voir, par exemple, aujourd'hui, dans ces petits cabarets dits interdisciplinaires, en 2024, ont pour ancêtre ces deux lieux, que ce soit le Chat Noir ou le Moulin Rouge ?
Je pense qu'on peut dire ça, pour ancêtre ces deux lieux, pour ancêtre aussi l'esprit de Montmartre à l'époque. C'était quand même très particulier, puisque c'était relativement autonome de Paris. Donc il y a aussi cette liberté d'esprit, liberté politique, on va dire.
Et peut-être une certaine idée de la fête.
Oui, oui. Mais ça, est-ce qu'on le doit au Chat Noir et au Moulin Rouge, pardon ? Ça, je ne suis pas sûre. Je pense que ça vient plutôt d'avant encore, des cafés-concerts, etc., où il y avait, dans ces cafés-concerts, où il y avait l'idée de la participation à la fête, qui existait déjà. C'est-à-dire que les clients pouvaient venir et eux-mêmes pousser la chansonnette. On leur donnait un numéro pour qu'ils puissent passer à leur tour et chanter ce qu'ils avaient envie de chanter, etc. Donc cette participation-là, elle existait avant. Elle a été reprise et sans doute structurée un petit peu autour d'artistes plus professionnels. Mais ça existait. En revanche, je pense que ce qui a vraiment été cristallisé à travers ces lieux qu'étaient le Moulin Rouge et le Chat Noir, c'est cet esprit de liberté et de mélange. De mélange de générations, de mélange sociaux aussi. Ça, c'était et c'est encore très important aujourd'hui au cabaret. Et de mélange aussi artistique.
Merci à Jean-Claude Yon, Frédéric Thomas, Annabelle Poincheval, Rodolphe Trouilleux, Virginie Cléricot, Laure Montaz et Nadège Marouta. À l'accordéon et au chant, Gérald Bazin, dit l'Oiseau Joli, au chant au lapin agile, Frédéric Thomas et Cassita. La danse cancan de Laure Montaz a été enregistrée au Magic Mirror, salle de bal itinérante de 1924, conservée au Musée des Arts Forains à Paris. Lecture, Christophe Beer. Prise de son, Frédéric Cairo. Mixage, Manuel Couturier. Chargé de programme, Marie-Yvonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Johanna Bedeau. Merci à Monsieur K, qui m'a encouragé à faire cette série documentaire. Cabaret. Premier épisode, au commencement, était Montmartre. Céline Duchesnay, Laurent Polleret. Les pages web, c'est sur franceculture.fr et le podcast sur l'appli Radio France.